Sonobook présente, avec l'autorisation des éditions Albin Michel, Destin français, de Éric Zemmour, lu par Philippe Lebeau. À mes parents. L'histoire mène à tout, mais à condition d'en sortir. Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage. Introduction. C'était un cours d'eau qui ne payait pas de mine. Il ne méritait guère le nom de fleuve, à peine celui de rivière. Il ne m'apparaissait pas impressionnant, ni admirable, ni dangereux. Il n'avait ni l'élégance majestueuse de la Seine, ni la fureur sauvage de la Loire, ni la puissance boueuse du Danube, ni le charme romantique du Rhin. L'eau s'écoulait lentement sous le soleil de juin, et je l'imaginais pourtant saisi par les glaces. Une indolente sérénité régnait sur chacune des rives. Moi, je m'obstinais à voir et à entendre le fracas et le tumulte, les pas sourds des chevaux, les hurlements de détresse des femmes et des enfants qui se noyaient, les coups de feu, les soldats épuisés aux uniformes dépenaillés qui couraient dans le désordre, tirant au hasard, mourant par surprise. Les rares passants aux alentours se demandaient ce que faisait cet étranger, soudain immobile, tétanisé, raide et silencieux, tremblant aussi parfois, intimidé, ému, devant ce fleuve qu'eux ne regardaient plus. J'avais conscience de ma stupidité, mais je ne parvenais pas à m'en arracher. Je sentis une larme couler, puis une autre s'enhardit et une autre encore. Je ne pouvais plus faire semblant. Je sanglotais. À l'époque, mes parents étaient toujours vivants, et au-delà de mes rares larmes d'enfant, qui avaient été le plus souvent des fureurs de gosses impérieux, la seule peine qui m'avait éplorée avait été causée par la défaite injuste et brutale de l'équipe de France de football face à l'Allemagne en 1982 à Séville. J'essuyais mes yeux dans un geste furtif de honte. Mon esprit continuait à vagabonder entre chevaux au galop, soldats trempés, cris d'agonie des noyés. Une immense scène se jouait devant mon regard embué sur ce fleuve minable et désinvolte qui poursuivait son cours sans se soucier de mes états d'âme ni de la fièvre qui m'étreignait. J'étais devant la Bérézina. Le Figaro m'y avait envoyé pour un reportage consacré au voyage littéraire. D'autres avaient choisi Chateaubriand à Jérusalem ou Flaubert en Égypte. J'avais demandé Stendhal et la retraite de Russie. Aussitôt après avoir atterri à Moscou, j'avais visité le champ de bataille de Borodino, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Tout m'évoquait ici Stendhal, son mépris pour les officiers de la Grande Armée, sa description de l'incendie de Moscou, l'emprunt qu'il s'était autorisé d'un livre de Voltaire dans la demeure abandonnée d'un patricien moscovite. J'avais suivi ensuite les traces enfouies de nos soldats, repassant comme eux par Smolensk. Je voyais les pontonniers du général Eblé se jeter dans l'eau glacée, au sacrifice de leur vie, pour construire le pont qui permettrait aux survivants de la Grande Armée de quitter cette maudite Russie. J'entendais les rugissements des soldats, mais aussi des femmes qui se précipitaient à l'eau sans savoir nager. Je devinais les Cosaques de Koutouzov, furieux d'avoir manqué Napoléon, qui les avait bernés une dernière fois, se ruer sur les traînards, qu'ils massacraient avec fureur et méthode. Ce spectacle épique était devenu mon histoire personnelle, intime. Je pleurais la débâcle de la Grande Armée comme la mort d'une mère, et la fuite de l'empereur comme l'humiliation suprême d'un père.